Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Chrétien d'Impact, ou ICC, Impact Christian Center. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifié, encouragé, transformé et propulsé comme une flèche vers votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 33 1 46 70 52 31 ou à l'adresse email suivante contact@icc-paris.org. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. May God bless you.
Amen. Comment allez-vous ce matin? Ouvrons nos Bibles ce matin à Hébreux chapitre 13. Nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur et nous bénissons le Seigneur aussi pour toutes les personnes qui se sont mobilisées toute la semaine pour le jeûne et prière. Et je n'ai pas l'intention de changer de thème. Je me suis dit, c'est dur de venir après le pasteur Mohamed, après qu'il ait parlé de l'adoration, c'est dur de venir continuer sur l'adoration, mais je me suis dit, je vais quand même oser continuer de parler de la louange et de l'adoration, que quelqu'un dise amen. Parce que je sens simplement que nous sommes dans une vague, dans une époque, dans saison, en tout cas, nous sommes dans une saison où Dieu veut vraiment que nous comprenions l'importance de sa présence. Et toute la semaine, nous avons eu un excellent moment. Vraiment, vous savez pas ce que vous loupez. Vous priez ceux de la maison, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec le fait que nous sommes ensemble. Hein? Vous savez, pendant longtemps, dans l'église, on ne nous a parlé que de prière. On nous a tellement parlé de prière, et qu'on s'est rendu compte que les prières dont on parlait, parce que je me suis converti, je viens d'un milieu pentecôtiste, où là où j'ai appris la prière, c'était des prières. Ce que j'appelle des prières mitraillettes, c'est-à-dire que lorsque tu commençais à prier, d'abord il fallait fermer le visage, un air solennel, commando, force spéciale, parce que tu venais en guerre, tu étais en colère après le diable. Et on m'a un peu finalement programmé pour voir la prière comme étant un moyen de tirer sur l'ennemi et pas un moyen de tirer ou de poursuivre le cœur de Dieu. Et donc, nous, à l'époque, à l'école à laquelle nous avons grandi, vous êtes bénis, vous qui êtes à ICC aujourd'hui, vous qui vous êtes convertis il n'y a pas longtemps, parce que nous, l'école à laquelle on a appris, c'était l'époque où quand tu commençais à prier, il fallait dire, d'abord, remets le Seigneur Jésus immédiatement. Après, tu demandais immédiatement, juste après, pardon pour tes péchés. Après, tu devais invoquer le Saint-Esprit, faire des sons, invoquer le Saint-Esprit. Tu sortais ton Kalachnikov et tu tirais maintenant sur tous les démons de la planète Terre. Et bien, c'est pendant longtemps que ça s'est passé comme ça. Et bizarrement, quand les gens ont fait beaucoup de bruit, mais ils n'ont pas adoré Dieu. Ils ont fait beaucoup de bouquins, mais ils n'ont pas touché le cœur de Dieu. Ils se sont libérés, parce que vous savez, quand on est frustré, quand on est en colère, on a besoin de crier des fois, parce que ça permet d'extérioriser le stress et la pression ou la frustration qu'on peut ressentir. Mais bizarrement, ça ne rapprochait pas vraiment les gens du cœur de Dieu. Et c'était la conception que nous avions dans l'église pendant longtemps. Puis, comme Dieu est Dieu et que Dieu fait quand même toute chose parfaite en 100 ans. Puis est venue la période ou la saison où Dieu a commencé à faire comprendre un peu à l'Église l'importance de sa présence et de venir avec lui, pas avec des préjugés. Parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, quand j'ai appris à prier, en fait, je savais exactement comment j'allais prier. Et quand j'ai appris à m'abandonner au Saint-Esprit, quand nous avons appris à dépendre de l'Esprit, nous nous sommes rendus compte que tu pouvais venir devant les gens, commencer à prier, mais ne pas savoir ce que tu allais dire. Tu n'avais aucun schéma de prière précis. Tu te remettais juste au Seigneur et tu disais, Seigneur, conduis-moi. Et Dieu merci parce que l'Église a commencé à comprendre l'importance de la louange. Et quand je parle du mot louange, en réalité, je parle de la louange et de l'adoration. Que quelqu'un dise amen. Et les églises ont commencé à comprendre. Aujourd'hui, même dans certaines églises catholiques, notamment le mouvement charismatique, quand vous allez dans certains pays d'Afrique et même ici, ils ont compris l'importance de la louange. Ils ont compris l'importance de la célébration de Dieu. Toutes les églises ont maintenant un groupe de chant. Vous savez qu'il y a 100 ans encore en arrière, sortir rien qu'un tambourin ou un piano dans une église, c'était une abomination. Lorsque l'organe a été introduit, c'est ça non? L'organe non? Le piano. L'orgue, moi je parle en anglais, ça c'est l'organe. En anglais on dit organ, excusez-moi. Hein? Voilà, c'est ça. C'est pas possible, ça. Lorsque l'orgue a été introduit dans l'église, mais c'était une abomination. Comment peut-on produire un son comme ça dans l'église? Ça dérange. Aujourd'hui, toutes les églises maintenant cherchent des pianos, même plus des orgues. Et pendant longtemps, on a cru que la louange, la présence de Dieu, c'était juste venir poser des requêtes, solliciter Dieu, la prière de pétition. Et puis on s'est rendu compte que ça ne donnait effectivement rien parce qu'on n'était pas très exaucé. Et je bénis Dieu parce que finalement, on a commencé à se remettre en question. Et aujourd'hui, on arrive au stade où certaines personnes ont encore ces clichés religieux. Et lorsque tu leur dis que tu veux prier, tu vas passer 2 heures dans la prière et tu dis, mais ça sert à quoi? Surtout même quand tu vas aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, les gens, ils sont tellement focalisés sur le business que quand tu dis, je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence, tu dis, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert? Parce que les gens ont la perception de la prière comme étant un moyen de demander. Ils disent, à quoi ça sert d'aller prier aussi longtemps? Tu peux avoir les choses pour lesquelles tu vas prier. Moi, je vais juste au boulot et puis je prends un gros salaire et je peux les avoir. Et parce qu'ils pensent que la prière consiste à demander des choses matérielles. Ils ne se rendent pas compte que, mon frère, ma soeur, tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux pas acheter le bonheur. Tu peux acheter des médicaments, mais tu ne peux pas acheter ni la santé, ni la guérison. Que quelqu'un dise amen. Tu peux acheter des billets pour aller aux Antilles ou pour aller à Phuket. Mais tu ne peux pas acheter la paix du cœur qui ne dépend pas des circonstances. Que quelqu'un dise amen. Tu peux même acheter des marabouts, tu peux même acheter des pasteurs, parce qu'il y en a qui achètent aussi des pasteurs aujourd'hui. Des pasteurs qui se laissent acheter, je ne sais pas pour quelle valeur, mais ils se laissent acheter. Mais tu ne peux pas acheter la délivrance de l'Éternel qui ne vient que par l'obéissance. Quelqu'un dise amen. Il y a un endroit en Dieu. Il y a vraiment un endroit en Dieu où toutes les agitations du monde extérieur, tous les fléaux, toutes les calamités, toutes les crises et les catastrophes ne vous atteignent plus. Et cet endroit, c'est le lieu secret, c'est la présence de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Il est impossible de demeurer dans la présence de Dieu et d'être dépressif. C'est une impossibilité. On ne peut pas être dans le lieu très saint et puis être dépressif, découragé, démantelé, disloqué. On ne peut pas. Alors je me suis rendu compte, vous savez, souvent nous prions, nous supplions Dieu pour quelque chose parce que nous nous disons que si cette chose nous est accordée, nous est libérée, alors nous serons dans la joie parce que beaucoup d'entre nous attendons que quelque chose se passe pour commencer à être dans la joie. Et en fait, je me suis rendu compte, vous pourrez être dans la paix. Et en réalité, je me suis rendu compte que même quand ce que tu demandes à Dieu avec insistance sera manifesté, tu te rendras compte quand même qu'un autre problème surgira. Que quelqu'un dise amen. Si tu n'es pas convaincu de ça, attends. Dès que ton problème sera résolu, un autre surgira. Donc finalement, je me suis rendu compte que, finalement, vraie différence. Finalement, le fond de la chose. Finalement, ce que je désire le plus. Tant que je suis sur la terre, ce que je désire le plus finalement, ce n'est pas juste que j'ai une femme et un mari, parce que tu sais, on peut avoir une femme et un mari et puis quand même être en enfer. C'est pour ça que je dis souvent quand tu es célibataire, ne te frustre pas, hein, bénis Dieu, parce que vaut mieux être seul au paradis que deux en enfer. Que quelqu'un dise amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent absolument, c'est pas grave, qu'importe le gars, après tu dis, il va me rendre folle, mais qui t'a envoyé là-bas? Dis à ton voisin, attention. Donc, tu peux même avoir, alors, je veux la maison, je veux le travail, ça fait longtemps que je cherche le travail. Mais tu peux te rendre compte que tu as le travail, mais tu as le travail, mais quand tu vas au travail, tu deviens angoissé, j'en ai marre, le patron me stresse, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, finalement, c'est là où tu te rends compte que finalement, ce à quoi tu aspires, je veux l'argent, mais quand tu as l'argent, après, tu ne dors plus parce que tu as peur qu'on te vole l'argent aussi. Alors, finalement, demande à ta voisine, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quand même une bonne question? Mais qu'est-ce que tu veux? Finalement, en fait, qu'est-ce que tu veux? Le bonheur, la vraie paix, la vraie joie. Et David avait compris ça. Il était roi, mais il avait compris. Il y a un passage qui m'a interpellé dans Psaume 131. Ce n'est pas le passage de référence pour aujourd'hui, mais Psaume 131, voilà ce qu'il dit. Il dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. La version parole de vie dit, Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux. Je ne regarde pas les gens de haut. Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, ni des actions magnifiques qui me dépassent. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. La version parole de vie dit, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère, je suis calme et tranquille. Mais je me suis dit, mais Seigneur, c'est ça qu'on cherche en réalité. Qui est d'accord avec ça? Mais avoir l'impression de vivre le paradis sur la terre. Avoir l'impression, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les challenges, quelles que soient les montagnes et les obstacles, les Goliaths et tout ce que tu veux, tu es seulement calme et tu dis, Seigneur, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Parce que tu sais, un enfant sevré, quand il est en train de téter, mon ami, je t'assure, quand il était auprès de sa maman là, tu fais les grimaces que tu veux, tu fais le boucan que tu fais, tu dis, ah, oh, le petit, il est là. Il ne s'occupe pas des choses trop grandes et trop compliquées pour lui. Je me suis dit, Seigneur, finalement, c'est la vie à laquelle nous aspirons tous. Mais pourquoi est-ce que nous nous trompons de cible? Pourquoi est-ce que ce que nous poursuivons n'est pas le cœur de Dieu? Alors voilà pourquoi je me suis dit, je vais vous parler aujourd'hui du sacrifice de louange. Ouvrons nos Bibles à Hébreux chapitre 13. Pasteur Mohamed nous a fait comprendre l'importance de l'adoration. Mais je me suis rendu compte que bien qu'ayant compris l'importance de l'adoration, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas comment entrer dans cette dimension d'adoration et de louange, dans cette dimension d'unité profonde avec Dieu, dans ce lieu secret où aucun problème. Il y a des problèmes, il y a des démons, il y a des oppressions qui ne peuvent pas t'accompagner jusqu'à un certain niveau. Je répète. Il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des oppressions démoniaques, il y a des attaques spirituelles qui peuvent t'attaquer, qui peuvent t'arriver, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que personne n'a le droit d'entrer dans le lieu très saint s'il n'est pas sous alliance avec Dieu. Tout, tu ne peux pas. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, comme disait le pasteur, tant que tu vas rester dans le parvis, oui, tu es vulnérable. Mais il y a une dimension, quand tu atteins, c'est que le calme, la quiétude et le silence. Je me suis rendu compte que les gens qui entrent dans la présence de Dieu, je vous assure, vous savez les reconnaître, lorsqu'ils prient, vous allez voir que les gens qui sont toujours dans le parvis, quand ils prient, passent beaucoup de temps, alléluia, au nom de Jésus, Satan, je détruis, je terrasse. C'est bien, il faut terrasser. Mais je me suis rendu compte que quand tu atteins la dimension du lieu saint, du lieu très saint, en fait, tu es tellement enveloppé dans sa présence que tu n'arrives même plus à penser, même pas penser, ah, au nom de Jésus, diable, même la maladie, tu n'arrives même plus à t'adresser à la maladie. Ton corps peut être affaibli. Mais quand tu es dans la dimension du milieu très saint, tu ne penses même plus à la maladie. Tu penses juste à la contemplation. Oh Seigneur, je ne vous parle pas de ce que j'ai lu, je vous parle de ce que j'ai vécu. Juste dans cette intensité, dans cette présence, mon frère, oh mon Dieu. Ce qu'on appelle le paradis sur la terre. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrant sans cesse, une autre version dit continuellement. Par lui, offrant sans cesse, offrant continuellement à Dieu un sacrifice de louange. Il n'a pas dit offrant à Dieu une louange. Il a dit, offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Que quelqu'un dise Amen. Voyez-vous, la Bible dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut dire que le critère, le critère. Pour louer l'Éternel, le critère, ce n'est pas être dans la joie. Le critère, ce n'est pas être content. Le critère, ce n'est pas avoir ce que tu veux. Le critère, c'est est-ce que tu vis. Demande à ton voisin, est-ce que tu vis? Parce que si tu vis, si tu as la vie, alors la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher, tu ne peux pas permettre à quelque chose de t'empêcher de louer l'Éternel. Même les muets trouvent un moyen de louer l'Éternel. Même les sourds trouvent un moyen de louer l'Éternel. Offrant à Dieu, par lui, par Jésus-Christ, à Dieu un sacrifice de louange. Je vais développer cette phrase sous trois dimensions. Que quelqu'un dise Amen. La première dimension que je vais la développer, quand on parle de louange, dis à ton voisin, louange. La louange, c'est d'abord une action. La louange, c'est une action. Elle ne dépend pas des sentiments, elle ne dépend pas des émotions. C'est une action, c'est un acte, je dirais encore, c'est un acte d'obéissance. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et souvent, lorsque nous commençons le culte de dimanche matin, vous savez, beaucoup d'entre nous, nous avons besoin d'un directeur de louange, nous avons besoin d'un conducteur de Rokia, de Luc ou des autres, pour nous dire « Allons, peuple de Dieu, nous allons louer l'Éternel ». Et oui, effectivement, ça, c'est un acte de louange. Et souvent, nous avons besoin d'être encouragés parce que certaines personnes viennent avec des soucis, des fardeaux. Et c'est vrai que lorsque tu es capable de mettre tes soucis et tes fardeaux de côté et adresser au Seigneur un culte qui lui soit agréable, oui, c'est vrai que c'est une forme, c'est une expression de louange. La louange n'est pas seulement physique, parce que la Bible dit « danser devant l'Éternel ». David a dansé devant l'Éternel. La louange est aussi verbale. Il est écrit dans le psaume 34, verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche ». Ça veut dire que, oui, la louange, l'expression de la louange peut se manifester au travers de la danse. Mais vous savez que chacun a sa personnalité. Il y en a qui sont plutôt introvertis et qui donc ne sont pas très dans la gestuelle. Et il y en a qui sont très expressifs, mais qu'importe. Mes mains doivent apprendre à l'acclamer. Mon corps doit apprendre à le célébrer. Mais également ma bouche doit apprendre à proclamer ses louanges. Que quelqu'un dise Amen. Dieu veut être loué de manière audible. Et il veut aussi que j'invite les autres à le louer avec moi. C'est pour ça qu'il est écrit dans toujours le psaume 34, verset 3. Exaltez le Seigneur avec moi, célébrant tous son nom. Viens avec moi et célébrant l'Éternel. Mais en réalité, si on s'arrêtait seulement à cette dimension, je peux vous assurer que... Alors je ne sais pas si on voit ça. En tout cas, on ne voit pas beaucoup ça ici, mais dans beaucoup d'endroits, on voit des gens qui savent acclamer, qui savent faire beaucoup de bruit, qui savent danser, qui savent danser, qui savent chanter. Mais ça, c'est une forme de louange. Mais ce n'est que la première dimension. Que quelqu'un dise Amen. La deuxième dimension, c'est que la louange est une attitude. Que quelqu'un dise attitude. La louange est une attitude. Voyez-vous, c'est le texte que nous avons lu dans le livre de Hébreux. Et si nous remettons ce texte dans son contexte, il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Parce que lorsqu'on met ce texte dans son contexte, vous devez comprendre que l'auteur de l'épître aux Hébreux, il écrit à des Juifs. Et les Juifs connaissaient le tabernacle. Les Juifs connaissaient l'Ancien Testament. Les Juifs, lorsqu'ils lisent, c'est pas comme nous, lorsque les Juifs lisaient, offrant sans cesse, continuellement à Dieu, un sacrifice de louange. Les Juifs soulignaient le mot sacrifice. Parce qu'ils savaient, parce qu'ils étaient habitués à aller adorer l'Éternel avec un sacrifice. Ils n'allaient jamais dans la présence de Dieu les mains vides. Ils n'allaient jamais dans la présence de Dieu en leur offrant juste ce qu'ils avaient. Je te donne ce que j'ai dans la poche, je te donne ce que j'ai avec moi. Non, quand ils allaient voir l'Éternel, quand ils allaient offrir un sacrifice à l'Éternel, ils prenaient soin de s'assurer que ce sacrifice allait être approuvé de Dieu. Parce qu'il savait que si ton sacrifice n'était pas approuvé, tu pouvais être consumé. Que quelqu'un dise Amen. Parce qu'il savait qu'on n'approche pas un roi n'importe comment. On approche un roi avec révérence. Parce que tant qu'il n'a pas tendu le sceptre, tu n'as même pas le droit d'approcher. On n'approche pas un roi en mâchant un chewing-gum en disant « Excuse-moi, je suis là ». Non. Oh. Beaucoup d'entre nous, on se dit « Je vais offrir au Seigneur ce que j'ai. Tout ce que c'est ce que j'ai, je vais donner ça au Seigneur. » Mais tu sais, quand les Juifs entendaient le mot sacrifice, ils se rendaient compte que c'était sérieux parce qu'ils avaient peur que leur offrande soit rejetée. Et une chose qui m'a interpellé, parce que depuis que mon maître a enseigné sur ce thème, je suis allé lire tout l'Ancien Testament, je suis allé lire Chroniques, Samuel, je suis allé relire beaucoup de passages. Et puis il y a des choses qui sont venues qui m'ont interpellé. Je me suis rendu compte par exemple que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de chaise. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, dans l'église, on est habitué à louer Dieu, et puis on se rassied, puis on se relève, on loue l'Éternel, et puis on se rassied. Je me suis rendu compte, dans le lieu très saint, il n'y a pas de chaise. Dis à ton voisin, il n'y a pas de chaise. Ce qui signifie qu'en fait, les gens qui louaient Dieu restaient continuellement, soit debout, soit prosternés dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas de temps de répit. Voilà pourquoi il dit, offrez à l'Éternel continuellement. Il n'y avait pas de pause. Et lorsque vous lisez Apocalypse dans le ciel, lorsque vous lisez Ésaïe dans le ciel, les anges sont sans cesse prosternés en train de dire « Saint, 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 et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. » Ils adorent pas de temps en temps, ils adorent en permanence. Mais la Bible ne dit-elle pas « prier sans cesse » Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux vivre continuellement dans la louange. Que quelqu'un dise « Amen ». Mais comment fait-on pour vivre continuellement dans la louange? Je crois que lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu obéis à Dieu, tu peux vivre continuellement dans la louange. Ah, si tu me vois, même quand je conduis, je suis toujours en train de chanter en langue, de parler en langue, de parler en français, de chanter. J'ai toujours un chant qui monte. Rebababosha. Alléluia, toujours une action de grâce, toujours une gratitude, toujours une certaine reconnaissance qui monte vers le trône de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Beaucoup d'entre nous, nous faisons beaucoup de bruit, mais nous oublions que la louange est d'abord avant tout une attitude. Que quelqu'un dise amen. Offrant à l'Éternel un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de ses lèvres. S'il parle du fruit, ça veut dire qu'il y a d'abord une semence. Que quelqu'un dise amen. S'il parle du fruit des lèvres, ça veut dire que la semence provient du cœur. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça que je vous dis que la louange, c'est d'abord une attitude. La louange, ce n'est pas juste chanter, c'est, j'insiste, une attitude. Mais quelle attitude? Une attitude de gratitude qui consiste à apprécier la bonté de Dieu envers toi. Et envers moi. Que quelqu'un dise amen. Il ne s'agit pas de dire merci seulement. Parce que tu peux dire merci, mais maudire dans ton cœur. Que quelqu'un dise amen. On peut très bien dire merci à quelqu'un, puis à l'intérieur, on fait. Bon, je ne sais pas si on fait ça ici, mais chez nous, on peut dire merci à quelqu'un, et puis, puis à côté, on siffle. Ça ne veut rien dire. Et le Seigneur m'a parlé toute la semaine par rapport à ça. Parce que la première étape, c'est apprendre simplement à être reconnaissant. Beaucoup de gens se disent, mais comment je fais pour expérimenter cette dimension de la gloire de Dieu dont on parle? Qui veut expérimenter cette dimension de la gloire de Dieu? Qui lève la main? En tout cas, la prière de mon cœur, je vous assure, c'est d'expérimenter cette dimension de gloire. Parce que j'ai, en lisant toute la Bible, j'ai compris que lorsque tu atteins cette dimension de gloire, mon ami, je ne sais pas ce qui va te résister. D'abord, en fait, déjà, tu ne vis plus dans la peur, tu ne vis plus dans le stress, tu ne vis plus dans l'angoisse, tu ne vis plus dans le doute, tu ne vis plus dans tu n'es plus oppressé, tu es libéré. Que quelqu'un dise amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 28, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, montrant notre reconnaissance. Et la Bible dit dans les Thessaloniciens, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. Et le Seigneur m'a parlé toute cette semaine. Il m'a dit, comment est-ce que tu fais pour expérimenter cette dimension de la présence de Dieu? Cette dimension intense de cette plénitude de sa présence à laquelle tu aspires tant. Et qui en réalité est la solution à tous tes besoins. Je me suis rendu compte que Dieu est tout ce qu'il te faut. Et je sais ce que veut dire cette phrase aujourd'hui. Dieu est tout ce qu'il te faut. Parce que Dieu est la vie. Que quelqu'un dise amen. Et tout ce que Dieu est, lorsqu'il vient habiter en toi, il le manifeste naturellement en toi. Seigneur, moi c'est ce à quoi j'aspire. Mais comment est-ce que ça commence? Ça commence parce que la louange est une attitude de cœur. Ça commence par être reconnaissant. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas être reconnaissant. Et toute la semaine, on a prié, depuis lundi jusqu'à vendredi, on a prié toute la semaine pour ça. Seigneur, donne-nous un cœur de gratitude, un cœur reconnaissant. Nous sommes tellement habitués à nous plaindre de tout ce qui ne va pas. Et j'ai demandé au Seigneur, dis-moi, pourquoi est-ce que nous avons autant de mal à être reconnaissants? Il y a évidemment plusieurs raisons pour lesquelles nous avons tendance à ne pas être reconnaissants. Mais il y a un élément sur lequel il a attiré mon attention. Il m'a dit l'amertume. L'amertume t'empoisonne. L'amertume te fait mettre tellement de toxines que l'amertume t'empêche de contempler et de célébrer Dieu pour sa bonté. Que quelqu'un dise amertume. Dis à toi, ça fait attention à l'amertume. Pourquoi est-ce que les gens se plaignent? Qu'est-ce qui empêche les gens d'être reconnaissants? Simplement l'amertume et le fait de s'apitoyer sans cesse. Le fait de se plaindre tout le temps. Tu les écoutes, ils ne se plaignent. Qui aime la compagnie des gens qui se plaignent en permanence? Qui n'aime pas la compagnie des gens qui se plaignent en permanence? Bon, si toi, humain comme tu es, tu n'aimes pas ça, pourquoi penses-tu que Dieu prend plaisir à l'amertume? Toujours en train de se plaindre. Et en réalité, les gens se plaignent pourquoi? Parce qu'ils considèrent que Dieu leur doit quelque chose. Or, ma Bible dit que Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu ne doit rien. L'oxygène qu'il te donne, c'est gratuit. Si tu envoyais une facture, rien pour la lumière du soleil qu'il te donne. Méditons un peu là-dessus. Ce matin, on va méditer, que quelqu'un dise amen. Dis à ton voisin, méditons un peu. S'il t'envoie la facture, pour un peu de chauffage et un peu d'électricité, je paye beaucoup, beaucoup d'euros tous les deux mois. Mais si Dieu nous envoie la facture, qu'est-ce qu'il te doit? Et pourquoi est-ce qu'on se plaint? Ah, tu me dois ça. Il te doit quoi? Et quelqu'un dit amen. Si tu crois que Dieu te doit quelque chose, voilà la conviction que j'ai, voilà la pensée que j'ai. Mets tes actions sur un côté de la balance et mets tout ce que tu as fait pour lui sur un côté de la balance. Et de l'autre côté, et mets tout ce qu'il a fait, hein, mets tout ce que tu as fait pour lui depuis que tu es né. Et de l'autre côté de la balance, lui, il met tout ce qu'il a fait pour toi. Tout ce qu'il t'a envoyé gratuitement. La grâce qu'il t'a accordée gratuitement. Même quand tu ne le connaissais pas en lui, il t'a aimé, il t'a sélectionné, il t'a fait grâce. De combien d'accidents t'a-t-il préservé? De combien de catastrophes? Ah oui, il y a des choses qui t'ont atteint, certainement. Mais combien de choses ne t'ont pas atteint et qui auraient pu t'atteindre, qui auraient dû t'atteindre, qui auraient dû te toucher, mais qui ne t'ont pas touché? Dis-moi combien. Commence à compter. Tu penses que quand tu te lèves le matin, c'est le réveil qui t'a réveillé? Je dis, tu es insensé. Il y a des gens qui ont mis le réveil qui ne sont jamais réveillés le matin. Que quelqu'un dise amen. Tu penses que quand tu es rentré le soir à la maison, c'est ta voiture qui t'a protégé ou c'est le métro? Il y en a qui ont pris le métro et le métro a fait un accident. Ah, tu crois que ça existe même en Europe? Regarde en Espagne en mars 2000. 2000 combien? 2003. Une bombe. À Londres aussi. Tu penses que c'est le chauffeur? Ah, merci chauffeur de m'avoir conduit en sécurité. Non, je te dis merci Seigneur de m'avoir conduit en sécurité. Que quelqu'un dise amen. D'où vient cette amertume? En fait, je me suis rendu compte que l'amertume vient de ce que, lorsque tu étais dans la détresse et que tu attendais de l'aide et tu n'as pas reçu l'aide, ni de Dieu, ni des gens qui étaient proches de toi. Et souvent même quand les gens ne t'aident pas, tu blâmes Dieu. Parce que tu dis, en fait, si tu m'aimais, tu aurais fait en sorte que les gens viennent à mon secours. Et je me suis rendu compte que l'amertume vient souvent lorsque nous attendons quelque chose de Dieu et que ce que nous attendons soit ne vient pas, soit vient trop tard, lorsque tout est déjà pourri, lorsque Lazare est déjà mort, lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Alors la question qui nous remplit l'esprit, c'est pourquoi n'es-tu pas intervenu plus tôt et as-tu laissé la situation se détériorer? En fait, tu sais qu'il est Dieu et tu sais que de toutes les manières, comme Pierre, tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux pas le renier. Parce que tu sais que si tu renies Dieu, qui va t'accueillir? Si tu rejettes Dieu, qui va t'accepter? Qui va t'accepter? Jonas a essayé. Même les incroyants ont vu la poisse en lui. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu savent que nous sommes tous frappés de malédiction à cause de toi. Toi, tu étais un enfant de Dieu, toi, on dirait. Non, moi je suis là. Mais comment? C'est à cause de toi. Et les gars, ils tirent au sort. Même si le sort n'existe pas, le sort est tombé quand même sur lui. Quand tu rejettes Dieu, qui va t'accepter? Que quelqu'un dise amen. Mais lorsque tu as eu l'impression que Dieu n'est pas intervenu, et je crois sincèrement que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, amen. Tu ne peux pas laisser Dieu, tu ne peux pas le laisser tomber, mais tu restes là, tu dis bon, de toute manière, à qui irai-je? Tu as la vie éternelle, tu as les paroles de la vie éternelle. Je vais aller où? Mais en fait, à l'intérieur de toi, tu as quand même l'amertume. Ce qui fait que tu restes en lui, mais tu n'as plus envie d'être reconnaissant, d'être reconnaissante. Tu ne sais plus dire merci. Pas avec la bouche, parce que tu peux dire merci avec la bouche, mais tu ne le dis plus de tout ton cœur. Parce que quelque part, il y a une blessure à l'intérieur de toi. Et en fait, Israël aussi est passé par là. Parce que vous vous rendrez compte que lorsque Moïse est arrivé en Égypte, Moïse a suscité beaucoup d'espoir pour le peuple juif. Parce qu'il a dit, Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui sont montés vers moi. Ça faisait 400 années qu'il criait à Dieu. Et lorsque Moïse arrive, le peuple dit, youpi, enfin le libérateur est arrivé. Et là, la manière dont il va se manifester, ha, Je suis sûr qu'ils ont dû commencer à narguer les Égyptiens en disant « Na, 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 na. » Vous allez voir ce qui va se passer parce que notre Dieu a envoyé son libérateur. Il va accomplir des prodiges. Parce que Moïse leur a dit « Dieu va faire des prodiges au milieu de vous. » Ils ont dit « Yes !» Mais juste après, Moïse, au lieu d'utiliser la manière forte, il utilise la manière douce. Il va voir Pharaon. Au lieu de faire venir le feu sur la terre d'Égypte, il va voir Pharaon et puis il dit à Pharaon, Dieu a dit, laisse partir le peuple pour m'adorer. Laisse-le partir dans le désert pour m'adorer. Et en fait, vous vous rendrez compte que lorsque Dieu dit laisse partir, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Quand Dieu te fait sortir d'Égypte, ce n'est pas juste pour que tu te sentes bien, que tu regardes tes ongles, tu dis, oh Seigneur, je te bénis pour mes ongles qui sont beaux. Non, c'est pour l'adorer. Dis à quelqu'un, c'est pour l'adorer. Et donc, je reviens sur ce que je disais. Ils ont dû commencer à célébrer. Ça y est, le libérateur est arrivé. Notre situation va changer. Mais bizarrement, il semblait quand même que... Lorsque Moïse allait voir Pharaon, Pharaon dit, c'est qui Dieu? Je ne le connais pas. Puisque vous êtes venu me déranger, il a donné des ordres à ses commissaires en disant, avant, on leur fournissait la paille pour construire les briques. Maintenant, ils vont aller chercher la paille par eux-mêmes. Et la Bible dit que leur fardeau et leur calvaire a été multiplié. Et eux, ils ont dit à Moïse, mais qui t'a envoyé? Nous ici, on était bien. Enfin, on n'était pas bien, on souffrait déjà. Mais là, on pensait avoir touché le fond, mais tu nous fais descendre encore plus bas que bas. Aujourd'hui, à cause de toi, tu es venu avec les promesses de Dieu. La Bible dit, tu m'as dit, si je viens au Seigneur, ça se passera, ceci se passera, ceci arrivera. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras toi et ta famille. Si tu crois au Seigneur, tu te marieras. Amen. Avec un homme qui craint Dieu. Amen. Un homme qui ne sera pas infidèle. Alléluia. Pourquoi je parle seulement du mariage? C'est pas possible ça. Détache-moi de ça, Seigneur. Mais Seigneur, tu m'as dit ça. Et quand tu arrives, bizarrement, il ne fait pas immédiatement ce que tu attends qu'il fasse. Et tu as l'impression qu'il prend son temps. Il faut d'abord que les 10 plaies viennent frapper l'Égypte. C'est seulement après les 10 plaies. Mais les 10 plaies, ça a pris un temps. Et tu te dis, et voyez, et quand ils sont sortis d'Égypte, Israël est sorti en célébrant Dieu avec la bouche. Mais il y avait beaucoup d'amertume dans leur cœur. Pourquoi as-tu tant tardé? Pourquoi il y a des gens qui sont morts inutilement? Parce que tu es Dieu. Je ne peux pas dire, je suis arrivé au point où je connais trop la vérité, je sais trop de choses pour savoir que je sais que tu existes. Donc même si je disais, Dieu n'existe pas, je me tromperais moi-même. Et je sais que j'ai besoin de toi. Si je disais, j'ai pas besoin de toi, je sais que je m'asphyxierais moi-même parce que je sais que j'ai besoin de toi. Donc je suis obligé de rester avec toi. Mais je n'arrive pas à être reconnaissant parce que je suis un peu amer quand même. Il y a des choses pour lesquelles tu as trop attendu. Et pendant que tu as attendu là, mon mari est parti. Pendant que tu as attendu, il a couché avec d'autres femmes. Tu aurais pu l'arrêter le jour, il était rempli de convoitise, mais toi tu as attendu qu'il tombe dedans. Pourquoi tu as attendu? Alors que je te prie, je t'avais fait confiance. Mais là, si Dieu peut te parler, Dieu te dirait. Ce qui est terrible, c'est que quand Dieu te répond, il ne te donne jamais d'excuses. Je me suis dit, c'est pas Seigneur, pourquoi tu t'excuses jamais au fait? Il ne s'excuse pas. Il ne dit pas, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Non. Quand il sait que tu es rempli d'amertume, il ne vient pas. Il te console, que quelqu'un dise amen. Mais il ne s'excuse pas. Parce qu'il sait qu'il n'est pas fautif. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de choisir. Il y a des actes que tu as posés, tu ne l'as pas sollicité lui. Et même il y a des actes que tu vas poser, tu vas le solliciter. Mais des fois tu verras que ça ne marche pas comme tu veux parce que tu prendras quand même des coups. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Il a dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. De même que les cieux sont au-dessus de la terre, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Que quelqu'un dise amen. Mais tu vois, ce qui montre le côté miséricordieux et compatissant de Dieu, c'est que même lorsque ils ont murmuré, parce que dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu le bras, la droite de l'Éternel. Et même, ils ont commencé à chanter des louanges. Mais dès qu'ils sont arrivés à la première destination, la première étape du parcours, la Bible dit qu'ils sont arrivés aux eaux de Mara. Parce que là, ils ont voulu boire de l'eau, ils ont vu que l'eau était salée. En fait, en réalité, Dieu a simplement mis dans l'eau le reflet de ce qu'ils avaient dans leur cœur. Dieu voulait leur montrer qu'ils étaient remplis d'amertume. Parce que s'ils étaient réellement cette gratitude venait du cœur, ils n'auraient pas commencé à murmurer. Mais pourquoi? On ne boit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu ne nous as pas laissé en Égypte? Et là, Dieu a vu que le cœur était rempli d'amertume. Et le cœur de quelqu'un ici est rempli d'amertume. Et la vérité, c'est que tant que tu as l'amertume, tu ne peux pas être reconnaissant. Et tant que tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux même pas aller plus loin. dans la présence de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Mais Abraham aussi et Sarah, Abraham le père de la foi, il aurait pu se poser la même question. Mais pourquoi est-ce que tu es obligé d'attendre 100 ans pour me donner un enfant? David, il aurait pu être amer, rejeté par ses frères. Non, je parle de David. David était rejeté par ses frères. David était rejeté par ses frères. Oublié par son père. Tu imagines un peu, tu as un père, tu habites dans la maison, il ne sait pas que tu habites dans la maison. Où sont tous tes enfants? Ils sont là. Ah! Papa, moi, tu m'as oublié. Mais vous voyez, David aurait pu cultiver l'amertume. Tu n'as rien fait, Saül l'a poursuivi. Non, j'ai compris pourquoi David est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Malgré tout ce qu'il a enduré par Saül, tout ce qu'il a souffert, tu as dû fuir ta maison a brûlé. Toutes sortes de problèmes à cause de... Mais puis, il n'a pas d'amertume dans le cœur. J'ai compris pourquoi il pouvait approcher de Dieu. Parce qu'il était libéré de l'amertume, que quelqu'un dise Amen. Il y en a parmi nous parce qu'on est dans le désert. Parce que nous sommes dans le désert, nous sommes amers. Parce que tu tournes rond. Parce que tu tournes rond depuis quelques mois, depuis quelques années, tu tournes rond. Et quand tu tournes rond, alors que tu sais que Dieu peut te sortir de là, tu commences à poser des questions à Dieu. Moi, j'ai compris qu'il ne faut pas trop poser de questions à Dieu. Il faut juste apprendre à bénir Dieu. C'est pour ça que David dit, je n'ai ni le cœur hautain, ni le regard qui enfle. Je ne me pose pas des questions trop compliquées. De toutes les manières, je sais que je n'ai pas les réponses. Alors, tout ce que je ferai, c'est que je te bénirai. Je ne comprends pas tout, mais je te bénirai. Parce que quand tu tournes en rond, des fois tu ne comprends pas pourquoi je tourne en rond, mais je me suis rendu compte que tourner en rond, ce n'est pas toujours mauvais. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Tu sais que tu peux tourner en rond, c'est différent de errer. Ce qu'il ne faut pas, c'est errer. Mais quand Dieu te fait tourner en rond, c'est parce que Dieu est en train de t'opérer. Il te rend patient, il te rend miséricordieux, il te rend un peu plus amour. Et pour ça, tu vas voir que Dieu te fait tourner en rond dans le désert. Mais dans le désert n'est pas un lieu de défaite. Le désert est un lieu où il y a des victoires. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, quand tu es dans le désert, ce qui compte, c'est parce que le désert, c'est la dimension du juste assez. Juste assez pour faire ci, juste assez pour faire. Tout ce que tu fais est limité. Des fois, tu es frustré. Si tu ne fais pas attention, tu es frustré. Mais en fait, le désert, c'est fait pour t'apprendre justement l'obéissance et la gratitude en peu de choses. Que quelqu'un dise Amen. Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui compte, c'est que dans le désert, la gloire de Dieu soit là. Parce que la Bible dit que même lorsqu'ils marchaient dans le désert, l'arbre de l'Éternel les accompagnait. Sa gloire est là, alors ça va. Même si j'ai juste ce qu'il faut. Et quand je méditais dessus, vous savez, je pensais, dans la vie, il y a des saisons. Avant d'arriver au sommet, il faut d'abord commencer par le bas. Après, tu gravis les escaliers, que quelqu'un dise Amen. Et tu vas te rendre compte que le plus important, c'est que la gloire de Dieu soit sur toi. Tu es célibataire, mais la gloire de Dieu est là. Nous sommes dans l'église, nous sommes 20 personnes, il y a 4 ans, une vingtaine de personnes, mais la gloire de Dieu est là. Tu vois, le pasteur, il transpire, il galère, il souffre, il appelle les âmes tous les jours. Les gens, lui, entre ceux qui fuient ses appels, ceux qui, dès qu'ils voient le numéro s'afficher, ils balancent. Et ceux pour lesquels tu as prié, qui deux semaines après, dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Et des fois, tu peux être amer et être frustré. Mais ce qui compte, c'est que la gloire de Dieu soit là. On peut être dans un bâtiment comme celui-là. Évidemment, ça frustre des fois, mais je bénis Dieu parce qu'au moins une chose, la gloire de Dieu est là. Et tant que sa gloire est là, alors je le bénirai. Que quelqu'un dise Amen. Et tu vois, quand tu apprends à être reconnaissant, ça donne à la personne envers laquelle tu exprimes cette reconnaissance, ça lui donne envie d'en faire plus. Que quelqu'un dise Amen. Et je me suis rendu compte que David avait compris ce secret. David n'a pas été amer. Il disait, tu peux tourner en rond dans le désert. Ce n'est pas grave. Dis à toi, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut éviter, c'est de errer. Que quelqu'un dise Amen. Parce que tourner en rond, des fois quand tu tournes en rond, c'est juste, tu es juste en phase de préparation et de transformation. Ce qu'il faut éviter, c'est de errer. Parce que je vous rappelle qu'Israël, autour de Jéricho, ils ont tourné en rond. Premier tour. Hein? Faites le deuxième. Ah, mais Seigneur, on va faire la même chose encore. Et des fois, Dieu te conduit pour faire la même chose. Tu fais ça depuis la même. Et puis si tu ne fais pas attention, tu vas être rempli d'amertume et de frustration. Mais si cette chose que tu es en train de faire, c'est Dieu qui le veut, juste pour te former, bénis Dieu. Apprends à être reconnaissant. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on dit, élevons la voix pour prier, au bout de 5 minutes, beaucoup d'entre nous, on ne sait plus quoi dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de sujet de reconnaissance. Il n'y a pas de sujet d'action de grâce. Et quand on commence à prier, bon Seigneur, merci pour la journée, merci pour la famille, merci pour les enfants, merci. Bon, et puis après c'est fini. Mais tu ne sais pas prier encore. Mais tu verras que tant que tu ne sauras pas être reconnaissant, tu ne sauras pas prier. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur n'est pas rempli de reconnaissance, ta bouche ne pourra pas célébrer sa louange. Que quelqu'un dise amen. Dis à ton voisin, ce matin nous méditons. Israël a tourné en rond. Autour de Jéricho, ils ont tourné en rond. Mais Dieu est en train de les préparer pour quelque chose de grand. Que quelqu'un dise amen. Et David avait compris ça. Pris qu'il fallait apprendre à être reconnaissant. Savez-vous qu'aujourd'hui nous vivons dans la dimension, aujourd'hui, nous vivons dans la dimension du tabernacle de David. Encore un peu plus par rapport à suite au séminaire que nous avons eu, je me suis compte que David avait vraiment découvert quelque chose. David a découvert quelque chose chez Dieu qui l'a introduit dans une toute autre dimension. Aujourd'hui que je me rends compte que ce que David avait compris à l'époque était extraordinaire. Que quelqu'un dise extraordinaire. Parce que, voyez-vous, on était dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, pour approcher Dieu, on l'a vu par le tabernacle, il fallait faire toutes sortes de sacrifices. Il fallait d'abord brûler les animaux, les béliers, les boucs et tout ça, les agneaux. Ensuite, il fallait laver les mains, la cuve des reins. Il fallait jeûne interroger le chef de l'État. Mais quand je voyais comment les jeunes interrogeaient le chef, j'étais scandalisé. J'ai dit, à l'époque de Daniel, de Moïse, tu aurais été consumé. Tu parles au chef, mâcher un chewing-gum ou... enfin, c'est à peine, c'est pas comme si tu mâchais un chewing-gum. Ouais, mais monsieur le président... Ah, gars, c'est quand même le chef de l'État. On ne parle pas à un roi de cette manière, en respect. Parce que tant qu'il n'a pas tendu le jeûner pendant 3 jours pour aller approcher le roi, on n'approche pas un roi comme ça. Il faut qu'il te donne l'autorisation et que tu ne dis pas, ouais, j'ai ça, s'il te plaît, non. Tu dis d'abord, longue vie, oh majesté, tu dois te accorder la révérence. Que quelqu'un dise amen. Enfin bref, c'était juste mes constats personnels. Je dis vraiment, cette génération... Vous savez, notre génération a du mal, je crois, à adorer Dieu parce qu'elle n'a plus les valeurs de respect, de solennité, de révérence. Voilà ce que j'essaie de dire. Notre génération a un vrai problème avec ça. Il faut complètement nous reprogrammer parce que c'est devenu dur à comprendre ces choses. Parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus de respect, tellement de familiarité. Parce qu'on considère la présence de Dieu comme quelque chose de vain et d'acquis. C'est l'erreur qu'a commis Uzza. Vous savez, connaissez Uzza, celui qui a voulu redresser l'arche de l'Éternel qui était frappé de mort. Uzza était le petit-fils d'Abinadab. L'arche de l'Éternel était dans sa maison depuis longtemps. Et je suis sûr que comme l'arche de l'Éternel était dans sa maison pendant longtemps, il est devenu un peu familier. À force de voir l'arche dans la maison, l'arche ne frappait pas. Mais tant qu'il ne touchait pas l'arche, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui fait que Uzza va aller l'arche? Parce qu'il était devenu familier. Et quand tu deviens trop familier, tu commences à ne plus respecter l'onction de Dieu. Et ça peut te tuer. Que quelqu'un dise amen. Oh, dis à ton voisin, fais attention à l'excès de familiarité. David, dans une dispensation qui exigeait les béliers, l'encens, David a découvert un secret que personne n'avait jamais découvert. Parce que voyez-vous, je vous répète, comme vous avez vu le modèle du tabernacle, on ne pouvait pas juste marcher comme ça, sans se laver les mains, sans brûler les holocaustes, on rentrait comme ça. Et David, qu'est-ce qu'il a découvert? En fait, David a découvert qu'il y a un moyen de marcher directement, sans laver les mains, sans faire ci, sans sacrifier un animal, sans faire tout le protocole, toute la liturgie, le cérémonial, d'ailleurs, qui a été repris dans les religions. David a compris qu'on n'a pas besoin, on peut juste marcher sans même se laver les mains. Parce que David n'avait pas toujours les mains propres. On peut rentrer juste dans la présence de Dieu. Il a découvert un secret. Parce qu'il a contemplé Dieu, effectivement. Il a découvert un secret, c'est comme vous pouvez le faire. Juste ouvrir les portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis avec. Psaume 100, versets 4 à 5. Entrez dans son temple, dit la version parole de vie. Voilà ce qu'il a découvert. Qu'il n'y a pas besoin de protocole absolu. Il y a juste besoin, dit la version parole de vie, entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Que quelqu'un dise amen. En fait, il a compris qu'on peut traverser tout ça juste avec un cœur de gratitude et en sonnant la trompette à l'intérieur de son cœur et en la manifestant à l'extérieur. Il a compris que ça permettait directement d'accéder au trône. Même pas besoin, en fait... Le sceptre, dès qu'on entrait avec la reconnaissance et l'action de grâce, le sceptre était levé. Il disait, maintenant tu peux venir. Et je me suis dit, mon Dieu, David a compris quelque chose, pas trop tôt, mais il a compris ça très tôt. Je crois que c'est ce qui fait de lui un homme extraordinaire. Que quelqu'un dise amen. Il a compris ça très tôt. Il a compris que tu peux accéder à sa présence sans tout le protocole. Et pendant que je continuais de méditer dessus, je me suis rendu compte, voyez-vous, que pendant que David a mis la tente à Jérusalem, à Sion, le tabernacle et tous les ustensiles étaient restés à Gabaon. Et quand ils étaient restés à Gabaon, le peuple continuait. Il y avait toujours des sacrificateurs qui faisaient des rituels, qui offraient, qui versaient, qui sacrifiaient des animaux, qui se lavaient les mains, qui rentraient dans le lieu très saint et qui allaient à la table des pains de proposition, qui brûlaient l'encens. Le problème, c'est que la tente de David n'était plus à Gabaon, elle était à Sion. En fait, il n'y avait plus la présence de Dieu, mais il faisait beaucoup de rituels. Et ça, c'est la religion. Dieu n'est pas là. Mais en fait, toute la liturgie, tout le protocole, Dieu a disparu. Dieu préfère être avec David, qui le loue en permanence avec son cœur reconnaissant, plutôt qu'avec des gens qui font tout le protocole et toute la solennité. Dieu n'est pas dedans. Dis à toi ça, Dieu n'est pas dedans. Oh, que quelqu'un dise Amen. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ce que David a fait avec le tabernacle, en fait, c'est qu'il a fait que préfigurer la dimension dans laquelle est l'Église aujourd'hui. Lorsqu'il n'y a plus de sang à sacrifier, lorsqu'il n'y a plus de bélier à brûler, lorsqu'il n'y a plus d'encens physique à brûler, lorsqu'il n'y a plus de cuve d'airain dans lesquelles il faut se laver les mains, que fait le peuple? Ben, il satisfait le cœur de Dieu juste par l'adoration. Mais ça commence par la gratitude. Que quelqu'un dise Amen. Et mon frère, ma soeur, le deuxième point, je devais parler la semaine prochaine. Mais la louange, je le dis, c'est une attitude. C'est une attitude de gratitude. Et beaucoup d'entre nous, nous ne savons plus être reconnaissants. Nous ne savons plus être reconnaissants parce que nous pensons que Dieu nous doit quelque chose. Dieu ne te doit et Dieu ne me doit absolument rien. Et Dieu veut te guérir de cette amertume. Dieu veut te libérer de cette amertume. Parce qu'il sait que s'il ne te libère pas de l'amertume, c'est pour ça que lorsque le peuple a murmuré, lorsqu'ils sont arrivés aux eaux de Mara, tu te rendras compte que l'Éternel, c'est là, dans Exode chapitre 15, versets 24 à 26, c'est à ce moment-là que l'Éternel s'est révélé à son peuple comme l'Éternel qui guérit. Il guérit d'abord de l'amertume. Que quelqu'un dise Amen. À cet endroit-là, Dieu n'a pas guéri de maladie physique. Vous devez bien comprendre ça. Quand il s'est révélé comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit, c'était directement en lien avec l'amertume. Parce que l'amertume va t'empêcher d'expérimenter même une guérison physique. Parce que Dieu ne peut pas passer par toi. Et souvent, nous ne savons pas prendre le temps de regarder, de contempler à Dieu et juste d'apprendre à dire merci. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi te plains-tu? Écoute-toi parler dans la journée. Combien de fois apprends-tu à dire avec un cœur d'abord sincère et apprends-tu à l'exprimer par ta bouche en disant simplement Seigneur, merci. Je te remercie pour ce que tu es. Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Je te remercie de ce que tu m'as donné la paix. Seigneur, je me suis réveillé ce matin, je me suis rendu compte que je peux saisir et conserver quelque chose dans la main. C'est une grâce de Dieu. Je peux mâcher et avaler. Ouf, c'est une grâce de Dieu. Et en fait, souvent, il y a des choses que nous considérons tellement comme étant acquises que nous ne prenons plus le temps de bénir Dieu pour ça jusqu'au jour où elles viennent à manquer. C'est ce que m'a partagé notre sœur, la sœur Sonia, la mère de Gauthier, qui est là aujourd'hui, elle a eu trois tumeurs cancérigènes. Trois tumeurs, il n'y a pas longtemps. Elle a pris ça en deux semaines, hein? Non, enfin, elle est partie, elle avait mal quelque part, elle est partie faire des examens, et là, ils lui ont découvert, après analyse, trois tumeurs cancérigènes. Et là où je bénis Dieu pour elle, je lui ai dit, tu sais ça là, c'est pas naturel. Elle était tellement, tout le monde, tous les gens qu'elle a rencontrés, étaient en train de lui faire comprendre que c'est grave, elle va être bloquée au moins pendant 1 à 2 ans, et que là, c'est fini, le médecin hyper négatif, mais elle nous a dit, ce qui est incroyable, c'est que j'avais une paix totale et je refusais que les gens ne me polluent. Elle s'est faite opérer et les médecins, les chirurgiens qui l'ont opérée ne comprennent jusqu'à aujourd'hui pas. Ils lui ont dit, vous nous avez posé un vrai cas de conscience, un vrai problème. Même votre cas est en train de circuler sur Internet. On ne comprend pas comment trois tumeurs distinctes, ils ont tout enlevé et ça ne s'est pas propagé du tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ils n'ont jamais vu ça. Ils étaient tous énervés parce que même son médecin, il commençait à être irrité. Mais je ne comprends pas, vous me posez un problème là. Parce que comment peux-tu être opéré aujourd'hui, puis 3 jours après, 4 jours après, tu es déjà debout? Non, le lendemain, elle était debout. 4 jours après, elle sort de l'hôpital, aucun problème. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Mais vous savez, je me suis rendu compte que, vous savez, quand tu es dans cette atmosphère de la présence de Dieu, et que tu protèges cette présence, et que tu protèges ton cœur, Dieu est capable de faire tout. Quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Et vous voyez, Sonia, c'est une personne qui sait rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Alors, tu as le choix. Tu peux être amer parce que ton mari est parti, parce que ta femme a fait ci, parce que ton enfant a fait ci, ou tu peux simplement prendre le temps d'être reconnaissant. Et puis peut-être essayer de regarder à ce qu'il n'a pas fait, à ce qu'il n'a pas manifesté, mais à ce qu'il a fait. Et si tu regardes à ce qu'il a fait, je t'assure, si tu prends le temps d'examiner, de méditer, mon Dieu, ne fais pas comme Job qui, à un moment donné, Job n'a pas maudit Dieu. Mais Job est arrivé au stade où il ne comprenait pas et puis il a peut-être commencé un peu à se plaindre lui aussi. Et quand il s'est plaint, Dieu lui est apparu, Dieu lui a dit, Job, tu te plains de quoi? Dis-moi, tu étais où lorsque j'ai créé la terre? Tu étais où lorsque j'ai tracé, lorsque j'ai dit à la mer, ne dépasse pas cette limite, arrête-toi là. Tu étais où lorsque j'ai dit aux abîmes, ne franchissez pas telle zone. Tu étais où lorsque j'ai parlé au crocodile, lorsque je lui ai dit, bon, crocodile, tu dois être comme ça. Tu étais où? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu crois que je te dois? Je ne te dois rien. Et quand tu comprends que Dieu ne te doit rien, alors c'est toi qui fais profil bas. Tu fais profil bas et tu apprends simplement à être reconnaissant. Que quelqu'un dise, sois reconnaissant. Soyons reconnaissants. Et je me suis rendu compte que la reconnaissance, c'est très simple. Apprends à dire merci. Apprends à comprendre ce que Dieu est. Apprends à le remercier pour ce qu'il est. Apprends à le remercier pour ce qu'il fait. Apprends à contempler Dieu. Depuis que tu es né, il y a tellement de choses qui auraient pu t'arriver, qui ne te sont pas arrivées. Oui, certaines te sont arrivées. Mais dis-moi un peu, la question que je me suis posée hier, pendant que je méditais dessus, c'est avec tout ce qui t'est arrivé là, la question que je te pose, c'est est-ce que ça aurait pu être pire? Je suis sûr qu'à cette question, il y a quelqu'un au moins qui répondra oui. Alors, si, comme ce n'est pas pire, bénis Dieu là où tu es. Apprends à être reconnaissant et tu lui donneras envie de descendre dans ta situation. Que quelqu'un dise Amen. Inclinons la tête et vraiment prions que Dieu nous donne une attitude de gratitude. La vraie louange, ce n'est pas que danser, ce n'est pas que chanter. La vraie louange, c'est apprendre simplement à être reconnaissant. David savait être reconnaissant. Il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Venez exalter l'Éternel avec moi. Bénissons tous son nom. En dépit des challenges. Si tu ne sais pas être reconnaissant, tu ne sauras pas comment accéder à sa présence. Arrête de te plaindre. Dieu ce matin veut guérir quelqu'un de l'amertume. Dieu ce matin veut te libérer. Il n'a pas à te demander pardon. Il n'est pas fautif par rapport à ce qui t'est arrivé, par rapport à ce qui m'est arrivé. D'accord, c'est arrivé. D'accord, il te semble qu'il aurait pu le faire plus tôt. Il n'a pas fait plus tôt. Et la Bible dit que tu ne connais pas ses voies. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ce qui est certain, c'est qu'il veut te guérir. Parce que tant que tu n'es pas guéri de l'amertume, tu ne sauras pas être reconnaissant, reconnaissante. Et tant que tu ne sauras pas être reconnaissant, tu ne pourras pas approcher de Dieu. Parce qu'il est écrit, entrer dans ses parvis en lui disant merci. Et apprendre simplement à dire merci pour tout ce que tu es. Je te bénirai pour tout ce que tu es, Seigneur. Je te bénirai pour tout ce que tu es. Simplement, je te bénirai pour tout ce que tu es. Et qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Indépendamment de ce que tu penses et de ce que tu ressens, qu'est-ce que tu sais que Dieu est? La Bible dit, il est paix. Il est amour, il est ta joie, il est ta justice, il est ta bannière, il est ton bouclier, il est ta puissance, il est ma provision. Il n'est pas seulement mon pourvoyeur, mais il est ma provision. Parce qu'en réalité, c'est de lui dont j'ai besoin, au-delà de toutes choses, de cette maison. Je n'ai pas à manger, Seigneur, merci pour tout ce que tu es, ma provision. Je n'ai pas à boire, tu es ma provision. Tout simplement, je veux apprendre à te rendre grâce. Je veux apprendre à te dire merci. Je veux m'approcher de toi et je comprends ce matin que pour m'approcher de toi, je dois simplement apprendre la gratitude, Seigneur. D'accord, il y a des choses qui m'ont blessé, qui m'ont frustré. Mais il y a tellement de choses que tu as faites que je n'ai pas su compter, Seigneur. Lorsque je regarde moi-même dans le miroir, je me rends compte que ça aurait pu être pire. Alors je te dis merci pour ce que je suis aujourd'hui. Je regarde à mes enfants, je me rends compte qu'ils sont en bonne santé. Et même s'il y avait une maladie, je te dis merci. Je sais que ça aurait pu être pire. Et je sais que ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que de toute manière, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais donne-nous, Seigneur, une attitude de gratitude. Accorde-nous la grâce de savoir déclencher l'atmosphère de ta gloire. en manifestant comme David un cœur de reconnaissance au Seigneur, un cœur de gratitude. David n'avait pas droit à la lie, il n'était pas de lignée royale, il ne méritait même pas d'être roi. Il a appris simplement à avoir un cœur reconnaissant pour toutes choses. Dans les petites choses, j'apprends à dire merci. Dans les grandes choses, j'apprends à dire merci. Dans le désert, je te dis merci. Parce que tant que ta gloire est là, alors tout est là. Alors je te dis merci. Je n'ai pas tout ce que je veux. Cet homme est parti. Cette femme est partie. Seigneur, je te dis merci. Pas parce qu'il est parti, mais parce que tu es quand même mon Dieu. Et même si tout le monde est parti, qu'importe, tu es présent avec moi. Et je te dirai merci pour cela. Et je cesserai de regarder aux gens qui sont partis. Et je bénirai l'Éternel pour celui qui est resté. Seigneur, je veux simplement avoir un cœur de reconnaissance. Donne-nous ce cœur de gratitude. Et guéris quelqu'un qui était rempli d'amertume, de rapine, d'hypocrisie, d'amertume, de critique. Seigneur, guéris s'il te plaît. Guéris ce matin une personne, Seigneur, qui t'en voulait, mais qui sait quand même qu'elle ne peut pas te laisser. Et qui restait dans ta présence, mais le cœur rempli d'amertume, blessé. Pourquoi n'es-tu pas intervenu plus tôt? Seigneur, accorde-nous simplement d'avoir les yeux du cœur illuminés. Et accorde-nous simplement de cesser de poser des questions et de commencer à poser des actes d'obéissance. Simplement une adoration. Que ton cœur agrée, Seigneur. Parce que c'est cela qui nous donnera accès à ta présence. Et en réalité, nous croyons que lorsque nous avons accès, oh Seigneur, alors nous avons accès à tout. Parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Accorde-nous ce cœur de gratitude. Je me souviens ce matin de tout ce que tu es, Seigneur. Tout ce à quoi j'aspire, c'est ce que tu es. Dans toutes mes questions, il y a une réponse, et c'est toi la réponse. Tu es ma réponse. Tu es ma foi. Tu es ma justice. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je veux accéder parce que je sais que c'est là-bas, auprès de toi, que j'ai besoin d'être, Seigneur. Je veux t'adorer pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire, Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois ma gratitude. Seigneur, ma santé n'est peut-être pas parfaite, mais reçois ma gratitude. C'est par ta grâce que je vis, c'est par ta grâce que je subsiste. Je n'ai pas tous les jours à manger, mais reçois ma gratitude, Seigneur. Pour tout ce que tu es, je ne suis pas marié, reçois ma gratitude. Reçois mon action de grâce. Je n'ai pas de travail, reçois ma gratitude. Reçois mon adoration. Je n'ai pas l'intention de laisser ces choses m'empêcher de t'adorer. Reçois mon adoration, comme un parfum de bonne odeur. Pour tout ce que tu es, Seigneur, pour tout ce que tu es. Je veux regarder, Seigneur, au nombre de fois où dans mon sommeil, j'aurais pu disparaître. Dans mon sommeil, j'aurais pu être tué. Quelqu'un aurait pu faire effraction dans ma maison. Quelqu'un aurait pu entrer, un cambrioleur. Mais Seigneur, ce n'est pas la serrure qui m'a protégé. C'est la bonté et la fidélité de l'Éternel qui a gardé mon sommeil, qui m'a protégé dans ma couche, Seigneur. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu es? Je veux simplement te dire merci pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Que tu es, je te dis merci. Reçois la gloire. Reçois mon louange. Reçois l'adoration. Donne-moi un cœur de gratitude. Un cœur de reconnaissance. Un cœur qui cesse de se plaindre et de s'apitoyer et de murmurer, critiquer. Seigneur, tu ne me dois rien. Alors pour tout ce que tu es et que tu m'as donné, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Qu'importe ceux qui sont partis. Qu'importe ceux qui m'ont fait du mal. Tu ne m'as pas fait du mal. Tu ne m'as pas laissé tomber. Puisque tu es là, alors je dirai merci. Et je laisserai ces personnes qui sont parties. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore ce matin. Reçois ma gratitude. Reçois ma gratitude. Reçois mon adoration, Seigneur. Reçois ma gratitude, reçois mon amour. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
Seigneur, je t'adore.
Tout ce que tu es.
Seigneur, je t'adore.
Simplement t'adorer.
Tout ce que je veux, c'est m'approcher de toi. Parce que je sais que c'est à cet endroit, ce lieu secret, que j'appartiens. Je n'appartiens pas au parvis, j'appartiens pas au stress, à l'inquiétude, l'envie, la jalousie. Non, je veux être près de toi. Seigneur, guéris de l'amertume ce matin. Guéris de l'amertume. Guéris de l'incrédulité. Guéri de tous ces reproches, ces critiques. Accorde-nous simplement de venir près de toi, de nous attacher à toi. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien. C'est moi qui te dois tout. Je te dois le souffle de vie. Je te dois la paix que tu m'as donnée. Je te dois la vie, la joie, les organes, les cellules que tu as mis en moi. Tu aurais pu ne pas les mettre. Tu as donné des membres, même s'il en manquait d'autres. Tu en as de même comme il n'en manque pas tout, Seigneur. Il y en a quand même quelques-uns. Et je prendrai le temps de te bénir pour ce qu'il y a, pas pour ce qu'il n'y a pas. Je serai reconnaissant. Dans l'assemblée des fidèles, je te bénirai. Et ta louange sera toujours dans ma bouche. Et elle émanera d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Alors je sais, alors que j'obéis à cela, je verrai ta gloire. Je m'approcherai de toi et je recevrai tout le reste. Parce que tu as dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Je m'approcherai de toi et je ferai de toi l'objet, le sujet de ma joie, l'objet de ma recherche et de ma poursuite continuelle, Seigneur. Et je t'adresserai continuellement un sacrifice de louange, Seigneur. Le fruit de lèvres qui proclame ton nom, qui proclame ta fidélité. Béni sois-tu pour ce que tu as fait, pour ce que tu es. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, imprime cette parole dans nos cœurs. Nous avons assez enseigné sur comment prier. Apprends-nous seulement à prier de manière sincère, en apprenant à être reconnaissant. Et à essayer, même si c'est impossible, à essayer simplement de compter les bontés de Dieu. Compter tes bénédictions. Et je suis sûr que ça nous prendra toute une vie pour te bénir, pour la complexité du corps humain, pour te bénir, pour la complexité, pour la beauté de toute la création, de toutes ces choses que tu as disposées, que de mystères que le cœur de l'homme ne peut pas comprendre, Seigneur, et qui sont simplement le résultat et le fruit de la bonté et de la fidélité de l'Éternel envers nous. Alors reçois notre gratitude. Avec des cœurs reconnaissants et sincères, nous t'acclamons dans le nom de Jésus. Nous t'acclamons plus seulement avec les mains, mais avec des cœurs reconnaissants, avec des cœurs remplis de gratitude, au Père. Gratitude, gratitude, gratitude. Dans le nom de Jésus. Soir, nous sommes presque arrivés à la fin de ce service. Savez-vous, dans sa présence, toujours dans la même direction, nous voulons prendre le temps simplement de bénir encore Dieu, rendre grâce à Dieu. Je vais demander, nous allons faire la présentation, nous allons prendre le temps de bénir Dieu pour des enfants qui sont nés. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et mon frère, ma soeur, quand tu as des enfants, arrête de te plaindre aussi par rapport à tes enfants. Tu as pleuré Dieu pour avoir des enfants. Maintenant, dès qu'ils sont là, tu n'arrêtes pas de te plaindre. Ouais, ils sont têtus, ils sont comme si. Écoute, bénis Dieu parce que tu as des enfants. Que quelqu'un dise amen. Beaucoup cherchent à en avoir, ils n'arrivent pas à en avoir. S'ils pouvaient attraper ton enfant et l'éduquer, ils lui donneraient tout leur amour. Dans ces petites choses, apprenons à bénir l'Éternel. Je vais demander aux parents de s'approcher. Et nous allons prier. Ok? Vous êtes prêts? Patrick? Patrick, pardon. voulant présenter à l'Éternel ses enfants et bénir Dieu pour ses enfants. Il faudra ouvrir une crèche d'ici la fin de l'année. Je vous assure, il n'y en a pas trop, il y en a beaucoup. Alléluia. Nous bénirons l'Éternel pour les enfants. Nous voulons prier les enfants. Vous savez, la Bible dit, dans la Bible, on ne baptise pas les enfants. Parce que les enfants ne sont pas matures pour choisir. Lorsqu'on te baptise, tu dois choisir. Tu dois, avant de te baptiser, tu dois décider de ta propre volonté. Par contre, là, ce qui est biblique, ce n'est pas de baptiser, mais c'est de présenter des enfants et de les recommander à l'Éternel pour tout le reste de leur vie, de les consacrer à l'Éternel et de déclarer sur eux des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction pour dire jamais vous ne vous éloignerez des voies de l'Éternel. Vous ne serez ni amer, ni critique, ni cynique, ni hic. Vous serez reconnaissant. Amen. Nous allons nous lever, nous allons bénir l'Éternel pour ses enfants, pour ses champions de l'Éternel. Et bénir l'Éternel et prier aussi pour leurs parents, que Dieu leur donne la sagesse d'être toujours reconnaissant et je sais qu'ils n'ont pas le choix, de toute façon ils sont à ICC, ils sont obligés de bénir leurs enfants et de prononcer sur eux que des paroles de bénédiction. Jamais ils les appelleront par ce qu'ils font. Ils peuvent faire des bêtises, mais ils ne seront jamais bêtes. Ils seront toujours intelligents et des champions de Dieu. Amen. Tendons la main vers eux et bénissons-les de la bénédiction de l'Éternel. Pasteur Jacques, nous allons leur imposer les mains et mettre sur eux la grâce, la faveur de l'Éternel dans le nom de Jésus. We thank you God, we thank you Father God. Nous te bénissons Seigneur pour ces enfants. Seigneur, nous te bénissons pour Kéliane et pour Kézia. Proclamons Seigneur ce matin que nous les recommandons entre tes mains, entre les mains de l'Éternel, le Saint d'Israël. Touche-les dès maintenant. La Bible dit que Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Accordant la grâce de croître, grandir, mûrir en stature, en sagesse et en grâce, en faveur, en approbation divine devant Dieu et devant les hommes, dans le nom de Jésus. Nous les bénissons de la bénédiction de l'Éternel et nous les entourons de la bannière de l'Éternel. Nous les enveloppons de ta grâce et nous décrétons, Seigneur, qu'ils reposeront à jamais sous l'abri secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Qu'ils soient bénis et que l'excellence dans tous les domaines, excellence spirituelle, excellence morale, excellence en caractère, excellence académique, créativité, intelligence, discipline, obéissance, soumission à leurs parents, respect des autorités sera leur partage dans le nom de Jésus. Jamais ils ne se compromettront, jamais ils ne s'éloigneront des voies de l'Éternel. Et nous proclamons que toute leur vie sur terre, Seigneur, ils feront l'allégresse et la joie de ton cœur et ils te seront agréables dans le nom de Jésus. Kéliane et Kézia, vous êtes bénis dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, dans l'assemblée des saints, nous l'avons déclaré. Et c'est accompli maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.
Ce matin.
Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur l'église ICC Impact Christian Center, rendez-vous sur notre site internet www.icc-paris.org. Pour commander d'autres produits enregistrés à ICC, veuillez vous rendre sur le site www.metanoia-vie.com ou téléphonez-nous au 33 1 46 70 52 31. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.